Ceux qui m'entendent prêcher régulièrement savent que j'aime bien commencer mes messages par des anecdotes. Et je vous donne l'anecdote du jour. Ça s'est passé en 2016 aux Philippines. C'était un pêcheur qui était sur son bateau en train de pêcher la nuit. Et puis à un moment donné, son bateau, c'est comme s'il est bloqué par quelque chose. Donc là, curieux, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde dans l'eau et là, il découvre qu'il y a une espèce de grosse roche qui l'empêche d'avancer. Donc ça, c'était un pêcheur assez curieux. Il décide de prendre la roche et de la mettre dans son bateau. Et il rentre chez lui. Puis il la conserve, il la regarde, puis il la nettoie. Puis il faut savoir quelque chose sur ce pêcheur-là, c'était que c'était quelqu'un d'hyper superstitieux. Donc lui, il s'est dit, cette roche-là, elle est quand même belle, elle a l'air d'avoir une signification, et je vais la mettre sous mon lit comme porte-bonheur. Donc là, les années passent, et pendant plus de 10 ans, il garde cette perle-là sous son lit comme porte-bonheur, sans savoir ce que c'est, sans savoir ce que ça représente, jusqu'au jour où, à un moment donné, il doit déménager. Il est forcé de déménager, donc là, il prend toutes ses affaires, et il voit cette roche-là qui est sous son lit, il fait... Je vais quand même la prendre et je vais l'amener à l'office du tourisme, voir peut-être la faire évaluer, peut-être qu'elle vaut quelque chose, peut-être qu'elle a une signification particulière. Donc il arrive et il la dépose à l'office du tourisme. Et là, les gens tombent de leur chaise et ils découvrent que c'est la perle la plus lourde au monde. Elle pèse 34 kilos et elle est d'une valeur de plus de 100 millions de dollars US. Imaginez-vous! Le gars a une perle qui vaut plus de 100 millions de dollars et il l'a mis sous son lit comme ça pendant plus de 10 ans comme porte-bonheur. Ça se trouve que le gars galérait à payer ses factures, tout ça, alors qu'il avait la solution là, juste en bas de son lit. Il y en a qui vont rentrer chez eux et vont regarder sous leur lit. La perle ne va pas être là. Il y a vraiment un côté où sa vie aurait pu changer à cause de cette perle-là et il n'en avait aucune idée. Il l'a juste négligé, il l'a juste mis sous son lit. Et j'aimerais vous dire que c'est exactement ce qu'on peut faire avec le jeûne. C'est une pratique qu'on peut négliger, qu'on peut mettre de côté, pour qu'on peut dire ouais, c'est pas pour moi, c'est plus pour les pasteurs, c'est plus pour les prédicateurs, alors que c'est une pratique qui peut littéralement changer notre vie. Et c'est pour ça qu'on fait une thématique en début 2024, parce qu'on veut plus que jamais s'approcher de Dieu, parce que Dieu veut faire des grandes choses en nous et à travers nous en 2024. Et s'il y en a qui le croient, est-ce qu'on peut applaudir à l'avance ce que Dieu va accomplir cette année? La Bible parle énormément du jeûne. Il y a plus de 60 mentions du jeûne dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament. Je parlais avec quelqu'un, il me disait « Non, je pensais que c'était juste l'Ancien Testament, c'était juste avant qu'il fallait jeûner. Maintenant qu'on est en relation avec Jésus, on n'a plus besoin. » Non, 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 il y a vraiment un côté où Ancien Testament, Nouveau Testament, le jeûne était pratiqué. Et justement, parce que le jeûne, c'est une pratique méconnue un peu, moins connu que les autres disciplines, je croyais que c'était important, alors qu'on débute cette thématique-là, de poser des bases et de définir ce qu'est le jeûne et ce qu'il n'est pas. Premièrement, qu'est-ce que le jeûne n'est pas ? Le jeûne n'est pas une diète. Okay, le jeûne, ce n'est pas juste se retenir de manger de la nourriture pour perdre du poids. Okay, anyway, ça ne marche même pas parce que le poids que tu perds, tu le retrouves très, très rapidement juste après en commençant à manger normalement. Et la vraie astuce pour perdre du poids, on la connaît tous et on la déteste tous, c'est aller au gym. C'est à l'ogym, c'est ça vraiment qui va vraiment être efficace pour la diète. Deuxièmement, le jeûne n'est pas réservé à une élite spirituelle. C'est pas juste réservé aux pasteurs, aux prédicateurs. À un moment donné, Jésus était en train d'enseigner et alors qu'il prêche, alors qu'il enseigne à ses disciples, à tous ceux qui l'entouraient, il va dire ceci au sujet du jeûne. Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme font les hypocrites. Ils changent de visage pour que tout le monde voie qu'ils jeûnent. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, lave-toi le visage et parfume ta tête, afin que les gens ne se rendent pas compte que tu jeûnes. Seul ton Père qui est là, dans le secret, le saura. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Vous avez remarqué au début de ce passage-là qui est très riche, il ne dit pas si vous êtes pasteur et si vous êtes prédicateur et que vous jeûnez, jeûnez de cette manière-là. Non, non, non. Il dit quand vous jeûnez. Parce que Jésus prenait pour acquis que si on est enfant de Dieu, si on est chrétien, si on le suit, le jeûne va faire partie de notre vie. Il prenait pour acquis qu'un chrétien, ça jeûne régulièrement, ça jeûne pour s'approcher de Dieu. Donc, c'est pas réservé pour une élite spirituelle, c'est pour tout le monde. Et pourquoi ? Parce que les bénédictions que Dieu nous donne dans le jeûne sont tellement grandes qu'il voulait pas que ça soit réservé seulement à un groupe de personnes. C'est un des moyens privilégiés que Dieu utilise pour se révéler à nous, pour renouveler notre cœur, pour changer notre cœur. Et c'est disponible et accessible pour chacun d'entre nous. Troisièmement, le jeûne n'est pas un moyen de pression. Vous savez, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne et un des avantages de grandir dans une famille chrétienne, c'est que tout jeune, très jeune, on t'enseigne les principes de la foi, les bonnes disciplines à avoir dans ta vie dévotionnelle, dans ta vie spirituelle. Et très jeune, on m'a appris à jeûner. Et je me souviens que mes premiers jeûnes en tant qu'adolescent étaient catastrophiques. Tant au niveau de la motivation que de l'exécution. C'est comme si je voyais le jeûne comme un moyen de pression envers Dieu. C'est comme si je me disais, plus je souffre, plus il y a de chances que Dieu réponde à mes prières. C'est comme si je me disais, je vais tellement souffrir que je vais placer Dieu dans une position où il n'aura juste plus le choix de me bénir. Comme si Dieu était au ciel en haut avec les anges en train de se dire, hey guys, j'avais pas prévu de répondre à sa prière là, mais regarde-le, il souffre trop, je vais être obligé de le bénir. Mais la réalité, c'est que le jeûne et la prière, même lorsqu'on jeûne, on est appelé à prier dans le nom de Jésus. Et prier dans le nom de Jésus, ce n'est pas juste une formule magique qu'on dit à la fin de nos prières pour avoir un peu plus de chance d'avoir des réponses favorables. Non, non, non. Lorsqu'on prie dans le nom de Jésus, ce qu'on dit, c'est littéralement, Seigneur, si je m'approche de toi aujourd'hui, si je te demande d'intervenir favorablement dans ma vie, ce n'est pas parce que je vis une vie parfaite, ce n'est pas parce que je prie tous les jours, pas parce que je lis ma Bible. Non, non, non. Si je vis une vie, si je te demande d'intervenir dans ma vie, c'est parce que Jésus a vécu la vie parfaite que moi, j'étais incapable de vivre. Si je te demande d'intervenir dans ma vie, ce n'est pas dans mon nom, dans mes mérites, dans mon jeûne, dans ma souffrance, dans ma faim, mais c'est dans les mérites de la vie parfaite de Jésus. Ce qui veut dire également que le jeûne et la prière n'est pas non plus une punition qu'on s'inflige. Comme si on se disait, pour se faire pardonner nos péchés de 2023, on se dit, ok, en 2023, là, je me suis tellement éloigné de Dieu, j'ai tellement fait de gaffe que pour redevenir vraiment proche avec Dieu, là, va falloir vraiment que je souffre d'abord. Puis une fois que j'aurai assez souffert, Dieu va me dire, ok, t'as assez souffert, je te redonne le privilège d'être mon enfant et d'avoir une bonne relation proche avec moi. Non, 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 parce que la punition qu'on méritait, Jésus l'a déjà payée totalement à la croix pour nous. Il est mort à la croix pour nos péchés passés, présents et futurs. Et parce qu'il l'a fait, il nous donne accès et on peut s'approcher de lui avec assurance, sachant qu'on est le bienvenu dans sa présence. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut applaudir ce Dieu qui a tout pardonné, qui a tout accompli à la croix pour nous? C'est l'évangile. Mais maintenant qu'on a défini qu'est-ce que le jeûne n'est pas, nous allons voir qu'est-ce que le jeûne. La définition biblique du jeûne est la suivante. Le jeûne, c'est s'abstenir temporairement de nourriture dans un but, un objectif spirituel. Comme dirait le pasteur Claude, on jeûne pour découvrir et devenir la volonté de Dieu. On ne jeûne pas pour dire à Dieu, ok, accomplis mes quatre volontés. Non, non, on jeûne pour découvrir c'est quoi sa volonté pour ma vie, pour nos vies, pour notre année. Et il y en a, t'es dans une phase de ta vie où t'as besoin de discernement, t'as besoin de clarté, alors que tu dois prendre une décision où tu viens d'avoir des plus grandes responsabilités, t'as besoin de clarté, t'as besoin de discernement, de sagesse, pour savoir où tu vas, Dieu va te la donner dans le jeûne et la prière. Alors que tu t'approches de lui, il y a une clarté pour toi, il y a une paix, il y a des convictions, il y a une direction qui est disponible pour toi. Mais j'aimerais te dire que dans le jeûne et la prière, Dieu veut pas seulement nous révéler sa volonté, il veut façonner notre caractère pour qu'il puisse devenir de plus en plus semblable à celui de Jésus. Jeûner, c'est dire, Seigneur, j'ai plus faim de me rapprocher de toi, de connaître ta volonté pour ma vie, que j'ai faim de nourriture. Et dans la Bible, vous savez, il y a différents types de jeûnes. Il y a des jeûnes d'une journée, d'une semaine, de 21 jours, de 40 jours. Jésus a même jeûné à un moment donné 40 jours sans boire d'eau, sans manger. Ce n'est pas un jeûne que je vous recommande, il est assez extrême. Et dans la pratique, chacun peut jeûner comme il veut. Chacun peut jeûner comme il veut. Et si vous n'avez jamais jeûné, on vous conseille d'y aller doucement, d'y aller une journée à la fois, de commencer petit afin d'avoir des objectifs réalistes et de pouvoir les accomplir. Et c'est certain que si vous avez des conditions médicales, voyez avec votre médecin, on ne veut pas mettre votre vie et votre santé en danger. Mais s'il y a autant de façons de jeûner qu'il y a d'êtres humains, le jeûne doit toujours être accompagné de la prière, de la lecture de la parole, de s'approcher de Dieu. C'est pour ça que moi, lorsque je jeûne, à chaque fois, je fais quelque chose systématiquement. Je jeûne également de Netflix, des réseaux sociaux, de tout ce qui pourrait être des bruits qui, bien souvent, nous empêchent d'entendre ce que Dieu veut nous communiquer. Bien souvent, des bruits qui sont tellement des distractions qu'ils empêchent d'avoir un cœur à cœur avec Dieu et que le jeûne puisse vraiment prendre racine en nous. C'est dans un but spirituel de se rapprocher de Dieu. Voici ce qu'est le jeûne. Mais maintenant, on va voir pourquoi jeûner. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager deux bénéfices incroyables au jeûne, deux choses que Dieu accomplit alors qu'on vient devant lui jeûner. La première chose que Dieu accomplit, que Dieu accomplit à travers le jeûne, c'est qu'il révèle le vrai état de notre cœur. Une des choses que fait le jeûne, c'est qu'il te permet de faire le point sur où tu en es avec Dieu en retirant le réconfort qu'on a dans la nourriture. Parce que si on est honnête là, on mange beaucoup plus nos émotions que ce qu'on pense. La nourriture, le matin, le midi, le soir, les collations, ça nous apporte tellement de réconfort que lorsqu'on l'enlève, on réalise à quel point on est dépendant. Puis on mange pas seulement pour se nourrir, on mange aussi également des fois juste pour avoir un break. Puis juste dans la vie de tous les jours, là, la bouffe, ça peut vraiment nous aider à faire, à lutter contre toutes les distractions et toutes les bugs un peu qu'on a quand on parle et qu'on sait plus où on s'en va. Non. Ce que je veux communiquer, c'est que la nourriture, bien souvent, ça peut venir être comme une consolation. De dire, tu passes une journée difficile, t'arrives au travail, ton boss te parle mal, t'es dans une situation où tes enfants se chicanent, tout ça. Puis là, c'est comme t'as une frustration. Puis là, d'un coup, l'espoir revient. L'espoir de manger, l'espoir d'être rassasié. Puis là, tu penses à ta lasagne qui t'attend, bien avec de la bonne sauce béchamel, de la bonne viande, du bon fromage gratiné. Et là, tu dis, OK, je passe une journée pourrie, mais au moins, il y a mon repas qui m'attend. Au moins, il y a mon dessert, il y a mon fondant au chocolat qui arrive, qui va me faire vraiment... Oui, la journée a été nulle. Oui, je suis fatigué. Oui, je suis stressé pour les échéances de demain. Mais là, je vais avoir un break. Je vais avoir mon gâteau au chocolat. Combien sont coupables de ça? Mais sauf que ça, quand ça t'est retiré, là, tu réalises que tu ne peux plus t'appuyer sur la nourriture pour te consoler. Et en plus, quand tu jeûnes de Netflix et des réseaux sociaux qu'on utilise bien souvent pour décrocher, pour recharger les batteries, dans le jeûne et la prière, il ne te reste plus aucune chose pour t'appuyer, pour te consoler, pour te donner à remonter un peu le moral. Il ne te reste plus grand-chose à part Dieu. Et c'est ça qui est pertinent dans le jeûne. C'est ça qui est intéressant, c'est que le jeûne te pousse à trouver ton réconfort ultime en Dieu plutôt que dans ses bénédictions. C'est pourquoi le jeûne expose notre cœur plus que toute autre discipline spirituelle, parce qu'il nous pousse à affronter le vrai nous, notre douleur, notre fierté, notre colère, notre jalousie, notre peur, parce qu'il enlève les échappatoires qu'on a habituellement pour ne plus y penser. Il y a quelques années, vous savez, il y a une pub qui avait fait vraiment du buzz. C'était la publicité d'une barre de sneakers, la barre de chocolat sneakers, et dans la publicité, il y avait un slogan qui disait « t'es pas toi-même quand t'as faim ». Est-ce que vous avez déjà entendu cette pub, déjà vu cette pub-là? Dans cette pub-là, tu avais quelqu'un qui était frustré, qui était énervé, qui était impatient. Puis là, il se calmait. Alors qu'il mangeait la barre de sneakers, là, il était apaisé. Là, il manifestait les fruits de l'esprit. Et c'est comme il disait, t'es pas toi-même quand t'as faim, t'as besoin d'avoir ta barre de sneakers. Si t'as ta barre de sneakers, tout va bien aller. J'aimerais vous dire que cette publicité est mensongère. Parce qu'en fait, on n'est jamais plus nous-mêmes que lorsqu'on a faim. C'est juste qu'on n'aime pas ce que ça fait ressortir de nous. Ça fait ressortir notre impatience, notre irritation, notre manque de compassion, d'amour. Et c'est justement ça que Dieu veut transformer et changer dans le jeûne et la prière. Le jeûne nous révèle qui on est vraiment et fait ressortir les failles et les limites de notre caractère. Le jeûne te pousse à regarder ton orgueil droit dans les yeux, ta jalousie. L'orgueil, le jeûne peut te pousser à regarder ton manque de compassion, peut-être même ton manque d'amour. J'irai plus loin. Le jeûne peut te pousser à regarder ton manque de confiance en Dieu, ton manque de désir pour sa parole. En fait, le jeûne pose des questions dérangeantes. Il pose la question, ai-je vraiment faim de Dieu? Si jeûner, c'est dire, Seigneur, j'ai plus faim et soif de ta présence que j'ai faim et soif de nourriture, est-ce que c'est vraiment le cas pour moi? Le jeûne pose plein de questions dérangeantes. Est-ce que je vais trouver ma communion avec Dieu assez satisfaisante durant mon jeûne, non seulement pour passer à travers, mais prendre plaisir en lui? Est-ce que j'aspire vraiment à sa présence? Ou est-ce que j'ai commencé à me contenter de ses bénédictions dans ma vie? Tant que Dieu me donne ses bénédictions, tout va bien, mais sa présence, moi, je ne suis pas dépendant, je n'ai pas tellement besoin de sa présence. Richard Foster a déclaré ceci, « Plus que toute autre discipline, le jeûne révèle les choses qui nous contrôlent. » C'est tellement vrai. En d'autres termes, en retirant la nourriture et certaines sources de plaisir et distraction, le jeûne nous permet de voir où on en est vraiment avec Dieu. Le jeûne enlève les distractions pour t'aider à voir ce qui est vraiment important. Parce que bien souvent, on est tellement occupé, on est tellement en suroccupation que ça nous empêche d'avoir l'intimité avec Dieu qu'on devrait avoir. C'est pourquoi Jésus, à un moment donné, enseignera une parabole, et dans la parabole du semeur, il parlera d'un type de personnes qui entendent le message de Dieu, qui entendent la parole de Dieu et qui la reçoivent avec joie, qui viennent à l'église dimanche après dimanche, qui entendent les prédications, qui entendent le message, qui sont touchés, qui sont enthousiastes, ils aiment les temps de louange, mais dès que la semaine reprend, dès que le lundi, le mardi, le mercredi reprend, ils sont étouffés par les soucis, par les richesses et les plaisirs de la vie. En Marc 4, 19, il dira ceci. Les soucis de ce monde et la tromperie des richesses et les convoitises des autres choses étant entrées dans leurs esprits, étouffent la parole et elle devient infructueuse. Des gens qui viennent à l'église dimanche après dimanche, qui entendent la parole, qui sont enthousiastes, mais alors qu'ils retournent dans leur quotidien, ils sont tellement occupés, tellement distraits, tellement dans le tourbillon de la vie que la parole que Dieu a semée n'a pas pu produire le fruit escompté. On est la génération la plus occupée, la plus distraite de l'histoire. Je pense qu'on est capable d'avouer ça. On n'a jamais été aussi distrait, on n'a jamais été plus occupé qu'on l'est aujourd'hui. Comment je le sais, par exemple, juste s'arrêter. Pensez à la dernière fois là, que ça vous est arrivé. Juste s'arrêter pendant une heure, sans bruit, sans musique, sans téléphone, sans interruption. Aujourd'hui, c'est devenu mission impossible. Et pour certains d'entre nous, c'est encore pire. C'est que non seulement on n'arrive pas à avoir ces temps-là, mais pour certains d'entre nous, on fuit ces moments-là. Moi, ça m'est arrivé pendant longtemps. Moi, le jour où j'ai réalisé que j'avais un problème, j'étais dans mon appartement. Puis, pour un contexte, moi, mon appartement, c'est un tout petit appartement. Okay, c'est un 4,5. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'étais là sur ma télé et je regardais un film. Et à un moment donné, je mets pause à mon film pour aller chercher un snack à mon salon. Je vous ai dit, mon appartement est tout petit, ça prend même pas 15 secondes pour se rendre là-bas. Et là, j'ai eu un réflexe. J'ai mis pause sur mon film, j'ai sorti mon téléphone et j'ai mis de la musique pour m'accompagner durant le trajet jusqu'à ma cuisine. C'est là où je me suis dit, ok Thomas, t'es même pas capable d'être en silence pendant 15 secondes pour aller chercher un snack. Et je sais que vous êtes tous en train de me juger en ce moment, mais on est tous pareils. C'est ça la réalité, on est tous pareils. Lorsqu'on regarde un film, même s'il y a les meilleurs effets spéciaux, le meilleur suspense va venir à un moment donné où on va sortir notre téléphone pour regarder nos notifications. Même le cinéma, même les meilleurs réalisateurs n'arrivent même plus à capter notre attention pendant une heure et demie. Et si notre esprit est toujours surstimulé, toujours occupé comme ça, comment est-ce que Dieu est censé nous parler ? Comment est-ce que Dieu est censé se révéler à nous en profondeur si on n'est jamais capable de s'arrêter en silence pour se concentrer sur lui ? Et ça, c'est une des plus grandes armes de l'ennemi. Je crois vraiment qu'une des plus grandes armes de l'ennemi, c'est qu'il n'a pas besoin de nous pousser à faire des gros péchés. Non, non, non. La seule chose qu'il a besoin, c'est de nous occuper. C'est de nous distraire. Ouais, pas grave si tu ne trompes pas ta femme, tant et aussi longtemps que tu ne passes pas de temps dans la prière, tant et aussi longtemps que tu ne passes pas du temps dans la parole de Dieu à chercher sa présence, moi ça me va. Et bien souvent, on est tellement, tellement occupé qu'on n'arrive plus à prendre le temps de s'arrêter et de laisser Dieu faire une œuvre en profondeur dans nos cœurs. Mais alors qu'on s'arrête et qu'on s'avance et qu'on s'abandonne à Dieu, Dieu est capable de faire ressortir des choses en nous. Et je vous l'accorde, le jeûne, c'est difficile. Jeûner, c'est difficile, mais c'est nécessaire. Le jeûne, moi, des fois, je le vois un peu comme le dentiste. Si on est honnête, là, il n'y a personne ici qui aime aller chez le dentiste, vrai ou pas ? Il n'y a personne qui aime aller chez le dentiste. Et si tu aimes aller chez le dentiste, il y a des pasteurs et des leaders qui vont être là à la fin de la réunion, on va prier pour toi. Parce que vraiment, il n'y a personne qui aime ça. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je faisais des crises de nerfs. Ma mère était obligée de me forcer à aller dans la voiture. Je sais qu'il y a des parents, vous voyez exactement de quelle crise je parle en ce moment. Je faisais des crises parce que pour moi, le dentiste, c'était l'ennemi numéro un. C'était l'endroit où je ne voulais pas aller, l'endroit où j'avais de la douleur. Il prenait sa tronçonneuse, il me la mettait dans la bouche pour enlever mes caries, tout ça. C'était celui qui m'empêchait de manger des bonbons. Pour moi, c'était quasiment le diable. C'était comme même le dentiste, je ne veux jamais le voir la face. Mais la maturité, c'est de comprendre que les dentistes sont en réalité une bénédiction. Que la maturité, la sagesse, c'est de réaliser que j'ai besoin d'aller chez le dentiste régulièrement si je veux continuer à avoir des belles dents et si je veux pas avoir un dentier avant mes 40 ans. Si je veux continuer à fonctionner normalement au niveau de ma dentition, il faut que j'aille régulièrement. Puis alors que tu vas chez le dentiste, des fois, il va te dire « Ah, c'est juste pour un détartrage, franchement, super bonne hygiène, continue. » Mais par contre, des fois, quand tu vas aller chez le dentiste, il va te dire « Heureusement que tu es venu maintenant. » Parce que si tu avais attendu une semaine, quelques mois de plus, j'aurais été obligé d'arracher la dent. Et il y en a là, la situation est grave à ce point-là. tu as besoin pour toi, pour que ton mariage continue, tu as besoin de t'arrêter dans le jeûne et la prière et dire Seigneur, tu as besoin d'aller sur la table d'opération de Dieu et de dire Seigneur, montre-moi ce que je dois changer dans ma vie. Montre-moi ce qui doit changer dans mon caractère. Montre-moi mes failles et viens les remplacer par ton cœur à toi. Il y en a pour sortir d'addiction, de manière de vie, de patterns qui te pourrissent la vie. Tu as besoin de jeûner. Tu as besoin d'aller voir le médecin tout-puissant qui est capable de guérir ce qui est brisé en toi. Il y en a pour passer à un autre niveau alors que tu viens d'avoir plus de responsabilités, que tu viens d'avoir des enfants, que tu viens d'avoir une promotion, que tu viens d'avoir une charge supplémentaire. Pour avoir la percée que tu désires avoir, tu as besoin d'aller dans le jeûne et la prière et dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Par mes propres forces, je ne suis pas capable, j'ai besoin d'être renouvelé par toi. Et je sais qu'il y en a ici, quand je parle de jeûne, là, tu dis, man, c'est vraiment tough, là, c'est vraiment difficile. C'est juste, ça va juste m'aider à contempler à quel point c'est difficile de prier et de lire la Bible pour moi. Mais j'aimerais te dire qu'il faut que le jeûne, ça devienne ton truc. Même si en ce moment, tu dis, ah, c'est pas mon truc, c'est pas pour moi. Pour devenir la personne que Dieu t'appelle à être, pour expérimenter tout ce qu'il a en réserve pour toi, va falloir que ça devienne ton truc. Puis comme j'ai dit tout à l'heure, commence petit. Mais tu vas voir qu'alors que tu jeûnes, il y a toujours une récompense. C'est impossible de passer du temps dans la prière et le jeûne et qu'il ne se passe rien à l'intérieur de ton cœur. Dieu est au rendez-vous à chaque fois que tu jeûnes. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà expérimenté la puissance de Dieu dans le jeûne, qui peuvent encourager ceux qui ont besoin d'être encouragés ce matin? Il y a vraiment une puissance dans le jeûne et la prière. Le jeûne est pour tous les croyants, pour chacun d'entre nous. Et alors qu'on jeûne, Dieu ne fait pas juste révéler les limites de notre cœur. Ce qu'il vient faire également, c'est nous donner son cœur à lui. Et c'est mon deuxième point ce matin. Pourquoi jeûner ? Premièrement, il révèle le vrai état de ton cœur et deuxièmement, il renouvelle ton cœur. Ou plutôt, Dieu renouvelle ton cœur par le jeûne. Parce que le jeûne, ce n'est pas seulement dire non à la nourriture, non à certains divertissements. C'est surtout se concentrer sur se nourrir spirituellement. Et il y en a une des choses qui te retient de jeûner, c'est que tu trouves les temps avec Dieu extrêmement difficiles lorsque tu es chez toi. Tu aimes venir à l'église le dimanche matin, mais lorsque tu es chez toi, lire la Bible, prier, si tu es honnête avec toi-même, c'est plus une corvée qu'une bénédiction. Tu vois ça plus comme quelque chose de difficile qu'un privilège. Et alors que je préparais ce message-là, j'avais fort sur mon cœur qu'il y en a ici, dans cette salle, vous doutez de votre salut à cause de ça. Il y a comme une culpabilité que vous vous mettez parce que vous vous dites, comment ça se fait ? Si je suis vraiment enfant de Dieu, si vraiment Dieu m'a donné un cœur nouveau, qui m'a donné son Saint-Esprit, qu'il a fait de moi une nouvelle personne, comment est-ce que ça se fait que lorsque je suis chez moi, j'ai si peu d'intérêt pour les choses de Dieu ? Comment ça se fait que j'ai tant de mal à prier ? Comment ça se fait que j'ai si peu de plaisir à lire la Bible ? Puis tu te compares aux autres ou tu entends des témoignages de gens qui passent des heures et des heures dans la prière, qui ont des révélations, qui passent du temps dans la parole de Dieu, qui aiment ça et tu as l'impression que Dieu fait des choses pour eux et que lorsque toi, tu t'assois pour connecter avec Dieu, tu as l'impression que Dieu il est absent. Et tu culpabilises à cause de ça bien plus. Tu dis, j'ai l'impression que la vie chrétienne, la vie abondante promise par Jésus, j'ai pas tant l'impression d'expérimenter une paix en toutes circonstances, une joie, un amour, une compassion pour les gens, une passion pour les âmes. J'ai l'impression parfois d'être mort spirituellement. Est-ce que Dieu m'a vraiment donné un cœur nouveau ? J'aimerais te dire que si tu es là pour la première fois, Dieu peut te donner un cœur nouveau, peut changer ta vie, alors tu places ta foi en lui. Mais j'aimerais vous dire que pour beaucoup d'entre vous qui sont dans cette situation peut-être, il y a vraiment un côté où la question à se poser, c'est pas tant « est-ce que Dieu m'a donné un cœur nouveau ?» mais plutôt « qu'ai-je fait avec le cœur que Dieu m'a donné ?» Un peu comme cette histoire que j'aime bien raconter, c'est l'histoire d'un entrepreneur. Un entrepreneur extrêmement, extrêmement riche qui a bâti un empire et qui est devenu multimillionnaire. Et c'est le genre de personne qui vit une vie de luxe, qui a une maison de rêve, une villa avec piscine, un décor incroyable. Il a un garage, c'est même pas un garage, c'est un concessionnaire. Il a toutes les voitures de sport, toutes les Ferrari 0 à 100 en moins de 4 secondes, très très loin de ma Toyota Yaris 2014. Il a vraiment tout pour lui. Et ça attire la jalousie des personnes qui l'entourent. Ça attire la jalousie d'une personne en particulier. Cette personne-là, elle est connue pour avoir une réputation très, très dure, très, très méchante et que lorsque cette personne-là te menace, c'est sûr et certain qu'elle va exécuter cette menace-là. Et cette personne-là a commencé à menacer cet entrepreneur en lui disant « Un jour, je vais venir chez toi et je vais voler et détruire tout ce qu'il y a dans ta maison. Et tout ce que je ne peux pas voler, je vais le détruire. » Et là, on s'attendrait à ce que l'entrepreneur dise « Ah ouais, ok, bah là, je vais mettre des mesures. Je vais commencer à engager de la sécurité devant chaque porte. Je vais installer un système d'alarme. Je vais mettre même une voiture patrouille de police. Je vais mettre en mesure pour protéger ma maison parce qu'il m'a dit qu'elle est menacée. Et que lorsqu'il va tenter de venir voler, bah, moi, je vais être prêt pour répondre. » Mais en fait, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Le gars, il est encore plus laxiste que jamais. Contre toute attente, le gars sort de chez lui sans barrer les portes. Il laisse son portail de l'extérieur ouvert, donnant accès à qui le veut à sa cour. Des fois même, il laisse les fenêtres ouvertes. Et ce qui devait arriver arriva. Le voleur, la personne qui est méchante, qui l'a menacé, rentre chez lui, vole tout et détruit tout. Et là, on aurait envie de lui dire, mais tu t'attendais à quoi? C'est sûr et certain, le gars te menace et toi, tu laisses ouvert, tu fais comme si de rien n'était. J'aimerais vous dire que c'est la même chose qu'on fait lorsqu'on ne garde pas notre cœur. Lorsque le cœur que Dieu nous a donné, nous ne le protégeons pas. Parce que la parole de Dieu est claire là-dessus. Il y a un ennemi qui est là et qui veut voler, tuer et détruire. Il y a un ennemi qui est là et qui veut voler ta joie, qui veut voler ta paix, qui veut voler ton appel, qui veut voler ta relation avec Dieu, qui veut voler le ministère que Dieu a pour toi, qui veut voler l'influence que Dieu veut avoir avec toi. Il y a un voleur qui est là et qui veut tout voler et il y a un combat. Et tant et aussi longtemps qu'on ne réalisera pas qu'on est en combat, on perdra le combat. Et le pire, c'est que la parole de Dieu nous dit que non seulement il y a un ennemi, mais que la personne qui nous vole le plus, c'est même pas cet ennemi-là. Bien souvent, la personne qui nous vole le plus, c'est nous-mêmes. Parce que bien que Dieu nous ait donné un cœur nouveau, la parole de Dieu nous enseigne que tant et aussi longtemps qu'on sera sur cette terre, on aura quand même un combat avec le péché parce que notre ancienne nature est là. Notre chair est là et notre chair a des désirs qui sont opposés à ceux de l'esprit. Et c'est pour ça qu'il y a un combat et c'est pour ça que Proverbe 4, 23 nous dira ceci. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si c'est de notre cœur que viennent les sources de la vie, on doit être extrêmement vigilant à ce qu'on y laisse entrer, à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute, aux conversations qu'on entretient. Et le problème avec ce verset, c'est qu'il est hyper connu. C'est un des versets les plus populaires, mais les moins appliqués, les moins mis en pratique. Dans une époque où les divertissements n'ont jamais été aussi présents et jamais été aussi anti-bibliques. Mais jeûner, c'est recommencer à renforcer les forteresses de notre cœur si elles ont été négligées. Jeûner, c'est dire, peut-être Seigneur, qu'avec le temps, j'ai baissé ma garde. Je me suis permis de regarder des choses que je ne me permettais pas avant. Je me suis permis d'écouter, d'entretenir des conversations, d'entretenir des pensées, d'entretenir des relations que je ne me permettais pas avant et qui sont en train de miner ma relation avec toi. Mais dans le jeûne et la prière, moi, je veux recommencer à renforcer mes forteresses. Je veux mettre de côté ces choses-là et je vais me concentrer sur toi et te laisser renouveler mon cœur et renouveler mes pensées. Et vous allez voir qu'alors que vous allez jeûner, il y a quelque chose de particulier qui va prendre place. C'est que Dieu va vous redonner la sensibilité que vous avez perdue. Ou peut-être Dieu va vous donner pour la première fois une sensibilité à son Saint-Esprit comme jamais auparavant. Vous allez tomber sur des choses que vous regardiez, que vous écoutiez avant. Vous allez dire, wesh, comment est-ce que j'ai pu tolérer ça dans ma vie? Et à l'inverse, Dieu va vous donner des nouveaux désirs. La prière qui vous semblait si plate avant va devenir une passion. La Bible qui semblait tellement compliquée va devenir votre pain quotidien, va devenir un livre où Dieu va vous parler jour après jour. Pourquoi ? Parce qu'alors qu'on jeûne, Dieu renouvelle notre cœur. Alors qu'on jeûne, Dieu nous donne son cœur à lui. C'est pourquoi il faut vraiment garder en tête que notre cœur en ce moment-là, il n'est pas dans sa forme définitive. Dieu peut nous renouveler, Dieu peut le renouveler à chaque semaine alors qu'on s'approche de lui. Vous connaissez sûrement l'expression qui dit « le cœur veut ce qu'il veut ». Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Comme pour expliquer ce que mon cœur veut là, je ne peux pas le changer. Si j'aime ça, je ne peux pas contrôler ce que mon cœur y veut, je ne peux pas contrôler ce que j'aime. J'aimerais vous dire que cette expression-là est fausse. Parce que ce que le cœur veut plus que toute autre chose, c'est de ce qu'il a été nourri. Plus tu nourris ton cœur de quelque chose, plus ton cœur va vouloir ça, plus ton cœur va craver pour ça. Un peu comme ton algorithme Netflix. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus tu regardes des films d'action sur Netflix, plus ils vont te proposer des films d'action. Pareil pour YouTube. Plus tu laisses le contrôle de YouTube à tes enfants, plus les vidéos suggérées sur YouTube, ça va être des dessins animés, ça va être Pop Patrouille et compagnie. Pourquoi ? Parce que l'algorithme te donne ce que tu consommes. Plus tu consommes quelque chose, plus il va t'en fournir pour que tu puisses rester sur la plateforme. C'est pour ça que lorsque tu vois une publicité de nourriture ou simplement juste quand tu parles de nourriture, tu te mets à avoir faim parce que le cœur veut ce qu'il veut. C'est pour ça que des compagnies sont prêtes à investir des millions et des millions de dollars pour une publicité de 30 secondes pendant la mi-temps du Super Bowl. Parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils ont inséré l'idée dans la pensée de l'audience, cette même audience-là, elle va leur rapporter bien plus que ce qu'ils ont investi. Pourquoi ? Parce que le cœur veut de ce qu'il a été nourri. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dira ceci en Philippiens 4, versets 8 à 9. Nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui mérite respect et louange, alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Paul associe directement le fait de nourrir nos pensées à la présence de Dieu qu'on expérimente à tous les jours. Comment on nourrit nos pensées ? Ce qu'on regarde, ce qu'on écoute, les conversations qu'on entretient, toutes ces choses-là ont une incidence directe sur la présence de Dieu qu'on expérimente. Tu veux être plus proche de Dieu cette année. Tu veux expérimenter plus la présence de Dieu que jamais auparavant. Change la manière dont tu te nourris. Change la manière dont tu nourris tes pensées. Voici ce que John Piper a déclaré à ce sujet. Si vous ne ressentez pas de fort désir de manifestation de la gloire de Dieu, ce n'est pas parce que vous avez beaucoup bu et que vous êtes rassasié. C'est parce que vous avez grignoté si longtemps à la table du monde. Votre âme est remplie de petites choses et il n'y a plus de place pour les grandes. Dieu ne vous a pas créé pour cela. Il y a un appétit pour Dieu en vous. Il a seulement besoin d'être réveillé. Plus tu te nourris de choses spirituelles, plus tu vas désirer des choses spirituelles. Vous connaissez l'expression qui dit « l'appétit vient en mangeant ». Dans le royaume de Dieu, ça n'a jamais été aussi vrai. Les gens qui ont le plus faim et soif de la présence de Dieu sont ceux qui se nourrissent le plus. Ce ne sont pas ceux qui se nourrissent le moins, parce qu'on pourrait penser, parce que moi je mange, plus j'ai faim. Mais dans le royaume de Dieu, moins tu manges, moins tu passes du temps dans la prière, moins tu en auras envie. Peut-être qu'il y en a, vous l'avez déjà remarqué dans votre vie. Moins tu passes du temps dans la prière, moins tu as envie de prier. Moins tu lis la Bible, moins tu as envie de la lire. Pourquoi ? Parce que le cœur veut de ce qu'il est nourri. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que cette tendance-là, elle peut être renversée. C'est une nouvelle incroyable. Mais ça veut dire que ça prend de la discipline. Pour apprécier lire la Bible, pour apprécier la parole de Dieu, là, ça prend de la discipline. Pour apprécier prier, passer du temps dans la prière, dans l'intercession, ça prend de la discipline. Et j'irai même plus loin. Pour aimer Dieu passionnément à tous les jours, ça prend de la discipline. Pourquoi ? Pas parce que Dieu, il est tellement difficile à aimer qu'il faut se forcer, qu'on se convainc nous-mêmes qu'on l'aime. Non. Mais parce que bien qu'on ait reçu un nouveau cœur, il y a notre ancienne nature qui est encore là. Et notre ancienne nature, elle est anti-Dieu. Notre ancienne nature, elle déteste Dieu, elle est ennemie de Dieu. Et dans le jeûne, qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi notre cœur est changé ? C'est que dans le jeûne, cette mauvaise nature-là qui est anti-Dieu, on l'affame. Et on nourrit à fond l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que tu nourris le plus en ce moment dans ta vie ? Est-ce que c'est ta chair ou est-ce que c'est ton esprit ? Si c'est ta chair, pas étonnant que tu trouves la prière plate et que tu trouves les moments dans la présence de Dieu difficiles. Mais alors que tu changes, alors que tu réinverses, que tu redonnes au Saint-Esprit la place qui lui revient dans ta vie, tu vas voir que ce que tu vas désirer va changer. Alors qu'on s'approche de Dieu, Dieu change nos cœurs. Il nous fait aimer ce que lui aime et il nous fait haïr ce que lui haït. Mais ça prend de la discipline. Moi, un des mensonges qui a paralysé ma relation avec Dieu pendant longtemps, c'est la pensée que je ne dois jamais me forcer pour aller dans la présence de Dieu. C'est comme si je me disais, tu sais, Dieu, il ne veut pas des gens fake, il ne veut pas des gens hypocrites. Moi, je n'ai pas envie que des gens se forcent à venir me voir. Je veux que les gens viennent me voir parce qu'ils sont contents de me voir, parce qu'ils veulent me voir. Donc, je vais aller dans la présence de Dieu. Si je n'ai pas envie de prier, je ne prierai pas. Si je n'ai pas envie de lire ma Bible, je ne prierai pas parce que moi, je suis quelqu'un d'authentique, je suis quelqu'un de vrai. Mais j'oubliais que lorsque on se force à aller dans la présence de Dieu, Dieu ne voit pas ça comme de l'hypocrisie. Il voit ça comme de l'obéissance. Il voit ça comme son enfant qui fait la guerre à sa chair, qui dit hey, « c'est pas ma chair qui va commander ici, c'est l'Esprit de Dieu. Je ne vais pas marcher par la chair, je vais marcher par l'Esprit. Et si je dois me forcer, si je dois me discipliner à me rappeler les bontés de l'Éternel, ainsi soit-il. » C'est pour ça que si en ce moment tu ne désires pas Dieu, si en ce moment lire la Bible, passer du temps dans la prière chez toi, c'est une corvée, premièrement, ne culpabilise pas. La pire chose que tu peux faire, c'est être dans la culpabilité parce que la culpabilité nous rapproche jamais de Dieu, elle nous éloigne. Elle nous pousse à avoir peur de son jugement et à moins prier. Et moins on prie, moins on a envie de prier. Donc si t'es dans ce cas-là en ce moment, ton âme est engourdie spirituellement, que tu trouves le fait de t'approcher chez toi tout seul dans ta chambre de Dieu difficile, ne culpabilise pas parce que ultimement, tu n'es pas responsable de ce que tu ressens. Mais par contre, tu es responsable de ce que tu fais avec ce que tu ressens. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu peux venir et dire, Seigneur, en ce moment, mon âme est engourdie spirituellement. En ce moment, j'ai besoin que tu changes mes désirs. En ce moment, j'ai besoin que les désirs de l'esprit prennent plus de place et que les désirs de la chair prennent moins de place. Seigneur, je veux venir à toi. Viens changer mon cœur, viens changer mes affections, viens renouveler mes pensées. J'ai besoin de toi, Éternel. Et Dieu, on peut être vrai avec lui. Dieu, c'est la seule personne à qui tu peux tout dire et qui sera jamais surprise, jamais choquée parce qu'il connaît déjà tes pensées. Dieu attend simplement que tu sois vrai dans sa présence et que tu laisses faire l'œuvre qu'il veut faire dans ta vie. Et à chaque fois que tu jeûnes, il y a une récompense. Matthieu 6, 16. Ton Père qui est là, dans le secret, le saura. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. C'est impossible de jeûner et qu'il ne se passe rien dans ton cœur. C'est impossible. Et Dieu a un rendez-vous avec plusieurs d'entre vous ce matin. En fait, Dieu a rendez-vous avec tout le monde ce matin. Parce que le jeûne, ce n'est pas pour une élite spirituelle, c'est pour tout le monde. Dieu vous a précédé dans le lieu du jeûne et de la prière. Et la seule question qui reste, c'est est-ce que vous allez le rejoindre? Alors qu'il vous attend, quelle va être votre réponse? Est-ce que vous allez le rejoindre? Et alors que vous allez le rejoindre, ça va avoir un impact drastique sur la manière dont vous allez passer la prochaine année. La prochaine décennie, même le reste de votre vie. Il y en a, vous n'avez jamais jeûné. Et alors que vous allez jeûner pour la première fois, il va y avoir un déclic. La première fois, les premières fois où j'ai expérimenté la présence de Dieu dans le jeûne, j'ai fait « waouh ! Ma vie ne sera plus jamais pareille, ça va devenir quelque chose qui va être régulier. » Et même là, aujourd'hui, en tant que pasteur, il y a des moments où spirituellement, je me sens sec. Je sais que c'est le signal pour moi, pas que je ne suis pas enfant de Dieu, pas que Dieu n'est pas en train de faire une œuvre dans ma vie, non. C'est le signal qu'il faut que je commence à jeûner. C'est le signal qu'il faut que j'affame ma chair et que je nourrisse mon esprit. Et il y en a, le signal, il est fort dans ton cœur en ce moment. Et Dieu t'appelle à venir. Alors je préparais ce message, je me dis waouh. Imaginez si chacun d'entre nous à Drummondville ici là, on prenait ce message là au sérieux. On prenait cet appel de Dieu là au sérieux et qu'on se dit Seigneur là, moi je vais commencer le début de l'année pas à être étourdi par les divertissements. Non. Je vais commencer le début de l'année là. Moi je vais commencer le début de l'année à genoux. Je veux dire Seigneur, viens changer ma vie. Viens changer mon couple, viens restaurer mon couple, viens restaurer ma foi, viens restaurer ma vie de prière, viens restaurer ma vie de lecture de ta parole, viens restaurer mon cœur. L'impact que ça aurait. On serait des gens différents, on serait différents dans nos maisons, on serait différents dans nos foyers, on serait différents sur nos lieux de travail. On évangéliserait plus, on parlerait plus de Jésus. Il faudrait rajouter une troisième, une quatrième réunion. Est-ce qu'il y en a qui ont faim et soif de la présence de Dieu en ce début d'année? Est-ce qu'il y en a qui veulent vivre une année 2024 différente? Est-ce qu'on peut donner une ovation au roi des rois, au seigneur des seigneurs, par qui tout est possible? Alléluia. Je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous lever, puis on va prendre un chant qui est une déclaration de foi, qui dit « Christ seul me suffit ». Ce qui me suffit là, ce qui me comble, ce dont j'ai vraiment besoin là, c'est en Dieu que je vais le trouver. C'est en Dieu que je vais le chercher. Saint-Esprit, je te prie de remplir ce lieu de ta présence, Seigneur. Je te prie de déposer une faim et une soif pour plus de toi dans ce lieu. Une faim et une soif d'un renouvellement. Une faim et une soif d'une passion nouvelle pour toi, pour les choses qui te concernent, pour les choses de ton royaume, Seigneur Jésus. Je te prie pour toutes les personnes qui sont dans ce lieu. Je te prie pour une année 2024 différente, pour une trajectoire différente. Seigneur Jésus, pour des réveils spirituels, Seigneur Dieu. Où plusieurs sont endormis depuis des années, Seigneur, mais vont dire 2024, il s'est passé quelque chose. 2024, Dieu m'a sorti de ma zone de confort. 2024, Dieu m'a sorti de ma sieste, m'a sorti de mon sommeil et m'a mis en feu pour lui plus que jamais auparavant. Seigneur Jésus, je te prie de venir éveiller notre âme, Seigneur Dieu, de venir nous rappeler, nous redonner une sensibilité que peut-être on a perdue, Seigneur Jésus. On a faim et soif de plus de toi. On a faim et soif de te voir agir plus que jamais, Seigneur Jésus. Et on est conscient que le plus beau cadeau qu'on peut faire à notre entourage, Seigneur Dieu, c'est d'être proche de toi. C'est de commencer l'année dans le jeûne et la prière en disant et en déclarant haut et fort que notre priorité cette année, ça ne va pas être de gagner plus d'argent, ça ne va pas être d'avoir plus de succès. Notre priorité numéro un cette année, ça va être notre relation avec toi, notre intimité avec toi, Seigneur Dieu, parce que tout découle de ça. Tout découle de ça. Protège ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie, Seigneur Jésus. Et je te prie que tu viennes faire jaillir des fleuves d'eau vive de nos cœurs ce matin, Seigneur. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut donner la gloire au Roi des Rois, au Seigneur des Seigneurs?